de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter présente Alain Bachung.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
Osez Bachung. Le meilleur des chansons d'Alain Bachung et 16 reprises, dont Avec le temps, Le Sud, Les mots bleus.
Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine.
Retrouvez Alain Bachung dans le programme musical de France Inter. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, salut, et bien voilà, la mobilisation n'est pas morte. On est à peu près 3000 à Toulouse, c'est bien, c'est une bonne manif. Et il y a de l'ambiance.
Je n'en peux plus d'entendre sur France Inter depuis ce matin, baroud d'honneur, baroud d'honneur. Je regarde mon dictionnaire. Baroud, combat désespéré. Sachez, messieurs, mesdames, les journalistes, que la défense de l'égalité des droits syndicaux n'est jamais un baroud d'honneur. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Ghislaine de Pierzon. Eh bien, voilà, c'est à la manifestation. Beaucoup moins de monde, mais alors par contre, toujours l'unité syndicale, les mêmes mots d'ordre, les jeunes. Voilà, ça manque d'un deuxième souffle, mais je pense que compte tenu de la motivation et d'un petit peu de temps, parce qu'il faut résister dans la durée, les choses vont avancer. Eh bien, bon courage à tous, à bientôt.
Longtemps que je vous ai pas lu une ligne de Calvin et Hobbes. Eh bien, celle qu'on trouve aujourd'hui dans le Sud-Ouest me semble un parfait exemple d'idéologie diffuse, au sens de comment diffuser l'idéologie dominante en ayant l'air de parler d'autre chose. Je vous raconte. Première image, la mère de Calvin entre dans le salon où il est en train de jouer et en pointant l'index ou le pouce vers la chambre, elle lui dit « Allez, au lit, Calvin !» Deuxième image. Calvin, drapé dans sa dignité, répond « On est dans un pays libre, je fais ce que je veux. » Sur la troisième image, on voit Calvin couché, sa mère qui sort de la chambre en lui disant « Bonne nuit ». Il a donc été couché de force. Dernière image, Calvin hurle. Il hurle quoi? Vous auriez hurlé quoi, vous? Fasciste? Eh bien non, vous êtes trompé. Il hurle « Communiste ». Décidément, Calvin me fait de plus en plus penser à Sarkozy. Je suppose qu'il a été nourri, lui aussi, très jeune, à l'anticommunisme primaire. Vous savez que les adversaires du communisme accusent cette idéologie d'être le parangon de la dictature en tant qu'elle représente la privation de liberté. Et vous savez aussi que les ennemis les plus acharnés du communisme sont les prosélytes de la droite et de l'extrême droite, au nom, bien sûr, de la défense des libertés. Or, quel est le noyau dur du programme de la droite et de l'extrême droite? C'est la sécurité. Telle qu'elle a été défendue par Marine Le Pen ce matin même sur France Inter, avec la déclinaison des moyens qu'elle promet de mettre en œuvre si elle arrive au pouvoir. Renforcement des effectifs et des pouvoirs de la police, construction de nouvelles prisons, ce qui correspond à la politique mise en œuvre par les duettistes Sarkozy Hortefeux, sauf que, contrairement à ce qu'ils prônent, ils ont, paraît-il, réduit les effectifs de police. Mesure auxquelles Marine Le Pen ajoute, bien sûr, la promesse du rétablissement de la peine de mort, dans certains cas, bien sûr, dans certains cas, à cause de son effet dissuasif, évidemment. Alors après avoir entendu Marine Le Pen, je me suis demandé comment convaincre ces gens-là que l'argument dissuasif de la peine de mort est un argument considérablement surestimé. Ainsi, de nombreux dictateurs ont été exécutés une fois renversés, ce qui ne semble en rien diminuer les vocations de dictateurs, ne serait-ce qu'en France. Nonobstant, parviendra-t-on un jour à faire comprendre aux idéologues de droite et d'extrême droite que la répression n'est pas le plus sûr chemin pour atteindre la liberté? Et il me semble que sur ce sujet, la gauche et l'extrême gauche ont, dans l'ensemble, hein, il y a bien sûr des exceptions, ont davantage évolué que la droite, quoi. En tout cas en France. À écouter Marine Le Pen, je repensais à cette phrase formulée par le personnage interprété par Marcello Mastroianni dans Une journée particulière d'Ettore Scola. L'ordre, la vertu des médiocres.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Moi je voudrais vous parler de Alfredo. Alfredo, les copains du quartier On l'avait surnommé le plombier des étoiles. Super, Mario. Un type extraordinaire. C'est un gars qui vient de recevoir la 3e étoile de la valeur militaire. Un mec qui a gagné ses galons de sergent-chef au combat. Qui a participé à toutes les opérations extérieures, possibles et imaginables, à commencer par l'immeuble du Drakkar à Beyrouth. On s'en souvient. Fredo, c'est un gars qui est habité par des fantômes et qui ne peut pas dormir la nuit. Souvent, souvent, ça lui arrive. Alors voilà, Fredo s'est mis à boire et Fredo est tombé dans la spirale infernale. Un matin, il n'y a pas longtemps, il est tombé sur les Schmitt. Contrôle d'alcoolémie, échange de mots, on l'imagine. Je le connais, mon Fredo. Il a dû les astiquer un petit peu. Et puis voilà, ça fait 4 mois qu'il est en taule à Saint-Quentin-Fallavier. Et puis Fredo, ben ma foi, il est tout simplement en train de crever. Alors je m'interroge, qu'est-ce que c'est que l'ordre? Qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre? Qu'est-ce que c'est que le respect des personnes et la reconnaissance? Fredo, si tu m'écoutes, sache que tous tes copains du vieux quartier de Roussillon, eh ben on pense à toi. Et on y pense très fort. Très fort, mon petit Fred. Et puis on espère que tu vas revenir. Allez, on va s'en sortir. Courage.
Bonjour à tous. Ici le repère de La Rochelle qui invite les Rochelais à notre prochaine rencontre vendredi 26 novembre à partir de 19h à la Petite Marche comme d'habitude. Et c'est rue des Trois Fuseaux, près des Halles. À bientôt.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour à tous. Je vous appelle de l'Université Toulouse de l'UNIRAE, je suis étudiante. Et aujourd'hui, nous avons voté en Assemblée Générale le blocage de la faculté dans le cadre de l'opposition à la réforme des retraites, entre autres. Le seul problème, ce soir, nous nous retrouvons face à des vigiles du privé qui affirment que l'administration leur a demandé de nous contrer, de ne pas nous laisser bloquer la faculté. Donc le vote était pourtant a priori démocratique. Cela dit, voilà, ils refusent de nous toucher et ont carte blanche à partir du moment où on les effleure. Il sera donc difficile de bloquer sans les effleurer. Je voulais juste donc saluer le président de la faculté du Mirail et lui adresser mes remerciements.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Là-bas, si j'y suis, jamais les oreilles loin du front. Messages qui me parviennent ici à Lubumbashi, au Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo. Et dans cette charmante ville, et dans ce Katanga, et d'ailleurs sur l'ensemble du Congo, c'est la saison des pluies. Aussi a-t-on vite les chaussures fort boueuses. Et les chaussures boueuses, ça pose un problème pour le grand reporter blanc que je suis. Car ce grand reporter blanc a bien sûr des rendez-vous importants avec des personnes importantes. Il n'est pas question de rentrer avec des godasses crottées. Car après tout, je représente France Inter et tout ce prestige qui nous fait cortège. Aussi dois-je m'arranger pour avoir des chaussures à peu près présentables, mais je n'ai aucun matériel, rien à m'apporter. Aussi, en faisant quelques pas dans les rues si belles et si tranquilles de Lubumbashi, je rencontre un petit cireur qui me dit « Muzungu, je vais te cirer tes chaussures ». Mais pas question, imaginez la scène, le grand reporter blanc en train de se faire cirer ses chaussures par un petit garçon noir. Hors de question, image impensable, refus total. Résultat, le petit cireur est fort dépité par ce méchant blanc égoïste qui ne veut pas lui permettre de travailler. Résultat, mes chaussures sont toujours aussi crottées. Quelle solution? Glisser un petit billet dans la peau du cireur sans qu'il me cire mes pompes? Mais par question, c'est là une humiliation. Il travaille, c'est un travailleur qui ne demande pas la mendicité. Difficile, très très difficile, vous le voyez, la vie du grand reporter blanc, qui reviendra bientôt vous raconter d'autres histoires. sorti tout droit de ce Congo extraordinaire. En attendant, aujourd'hui, dans la basse Sissi, la réaction philosémique, le livre d'Yvan Segret. Très très franchement, cette émission n'avait pas eu grande suite alors que ce livre me semble très important, le livre d'Yvan Segret. Pourquoi réécouter ça aujourd'hui? Eh bien, c'est évidemment suite à l'entretien avec Alain Grech sur la Palestine. De quoi la Palestine est-elle le nom? Bien évidemment, une émission comme celle-là, traitant de ce sujet si névralgique, nous a valu des commentaires sympathiques, polémiques, et certains commentaires, comme toujours, un petit cortège dans le fond de commentaires, soupçonnant d'antisémitisme les critiques d'Israël lorsqu'elles s'expriment de cette façon. Alors, j'ai voulu aujourd'hui qu'on revienne sur ce livre d'Yvan Segret, La réaction philosémique, qui éclaire d'une manière, je trouve, très originale et très convaincante ce qu'il faudra bien appeler un jour une pensée scélérate. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Amélie, voilà, mon mari vient de s'enchaîner à l'école de Soupan à Matoury en Guyane française parce que son fils, notre fils, est handicapé et n'a toujours pas d'AVS depuis 3 mois. Merci de nous soutenir, hein. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 57 ans. J'ai terminé mon dernier contrat aidé le 31 octobre au Pôle emploi de Loudéac dans les Côtes d'Armor. Le Pôle emploi Bretagne refuse de me faire un CDI, invoquant le manque de postes et de budget, poste sur lequel je suis pourtant sans interruption depuis le 1er mars 2003. Soutenu par les collègues, les usagers, les élus locaux, j'ai obtenu plus de 2000 signatures au travers d'une pétition. Vous pouvez me témoigner votre soutien en signant cette pétition sur mesopinions.com, catégorie sociale, Martine Symbole malgré elle de la précarité chez Pôle emploi. Je vous remercie par avance.
Bonjour, les amis du repère de Chaland se retrouveront au café Le Danube, aujourd'hui le 24 novembre, comme tous les derniers mercredis du mois. Il sera abordé le sujet de la loi LOPSI 2. Ma foi, il y a fort à dire.
Bonjour, lors de l'émission d'aujourd'hui avec Alain Grech, vous avez dit que le conflit avec la Palestine était moins sanglant, moins violent que les autres. Il ne faut quand même pas oublier les massacres qui ont eu lieu à Gaza il y a presque 2 ans, fin 2008, début 2009, qui ont fait 1500 morts. Je voudrais signaler aussi que depuis le 5 novembre, il y a une exposition de photos au Musée d'Art Moderne à Paris qui montre justement le résultat des massacres avec des photos de personnes vivant actuellement à Gaza, mutilées totalement, avaient leur vie totalement détruite. Une exposition qui est à voir. Or, dimanche, il y a eu une trentaine de nervis de la Ligue de défense juive qui ont tenté de rentrer dans ce musée pour détruire cette exposition de photos qui ne devait pas leur plaire, évidemment. Donc la direction du musée a fermé, ils n'ont pas pu rentrer et il faut absolument que l'exposition de ces photos puisse être réouverte afin que le public ait le droit et la liberté de venir voir cette exposition de photos qui jusqu'à présent a attiré énormément de monde. Voilà, un exemple de plus de comment on traite l'information quand il s'agit de la Palestine.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie J'y suis, avec Yvan Segret, la réaction philosémite ou la trahison des clercs.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Yvan Segret, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez chez Ligne, un éditeur qui s'appelle Ligne, qui s'appelle La réaction philosémite ou la trahison des clercs. Alors, la réaction philosémite, ça nous concerne, ça concerne un peu, d'une certaine façon, cette émission et les auditeurs qui nous sont fidèles. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. depuis pas mal d'années, en France, s'est installée une inquiétude devant une certaine renaissance de l'antisémitisme. Et il y a une lutte qui s'opère contre cette renaissance de l'antisémitisme. On a vu s'installer un climat de soupçons et même d'accusations contre un certain nombre de personnalités, de chercheurs, mais aussi des catégories sociales qui ont été visées en lien avec cette montée, cette renaissance de l'antisémitisme. Certains groupes, les jeunes des quartiers, les progressistes, qui ont été visés. Jusqu'à ce qu'on arrive à un soupçon un peu généralisé, il y a une certaine banalisation de l'antisémitisme, c'est-à-dire on est finalement, tout le monde est susceptible d'être soupçonné et accusé d'antisémitisme. Tout ça a créé un malaise qui se prolonge toujours aujourd'hui. Ça dure quand même depuis pas mal d'années. Et il y a un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels qui ont produit des ouvrages dont vous parlez dans ce bouquin et qui défendent évidemment Israël, d'une part, et d'autre part, s'avance pour lutter contre l'antisémitisme. Et ils ont produit un certain nombre d'ouvrages, et vous les analysez, vous les décortiquez, vous les passez à la moulinette, et vous en sortez cet ouvrage et le sens qui est le vôtre, c'est-à-dire que vous voyez derrière tout ça une défense de l'Occident. En fait, vous voyez derrière ça une poussée d'une réaction. Alors, on va commencer par une toute petite chose, Yvan, si vous voulez bien, c'est que vous vous présentiez en quelques mots. Vous vivez maintenant à Tel Aviv, vous vivez en Israël, vous êtes docteur en philosophie.
Oui, j'ai 35 ans, j'ai vécu mes 30 premières années en France, j'ai fait des études de philosophie et de littérature, et puis je me suis en quelque sorte reconverti dans les études talmudiques. Et comme l'étude du Talmud est le cœur de l'étude talmudique, se trouve en Israël aujourd'hui, je suis parti vivre en Israël, j'ai pris la nationalité israélienne, et en ce sens-là, je puis dire que je suis un sioniste, puisque si la défense du sionisme a un sens, après tout c'est celui-ci, c'est celui de choisir de vivre en Israël, et je dirais que ce choix ne dépend absolument pas d'une quelconque peur de qui que ce soit en France. J'ai beaucoup de sympathie personnellement pour la communauté maghrébine en France, et beaucoup de sympathie aussi pour beaucoup de progressistes et d'intellectuels en France. Ce qui motive le fait de décider de faire son alias, à monter en Israël, c'est qu'on a un certain rapport avec la tradition juive et qu'on pense que l'avenir de cette tradition, du judaïsme, se joue aujourd'hui en Israël, avec toute la complexité de la situation là-bas, évidemment, mais qui est en tout cas porteuse de cet avenir à mon sens, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir vivre là-bas, et ce qui, soit dit en passant, laisse ouvertes les possibilités d'orientation politique les plus ouvertes. On peut faire son alliance en étant partisan d'un État binational, on peut faire son alliance en étant partisan convaincu de la nécessité d'une souveraineté juive en Palestine, bref.
D'accord. Mais alors, avant de vous installer à Tel Aviv, vous avez fini ces bouquins. C'est votre thèse de doctorat, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et je voudrais évidemment, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'abord de parler de ça, à travers ces auteurs que vous analysez, c'est-à-dire toutes ces auteurs qui sont connus du grand public, qui sont Alexandre Adler, qui sont Alain Finkielkraut, qui sont Pierre-André Taguieff, qui sont Riana Falaci, et vous proposez un voyage, véritablement, à travers ces auteurs. Mais encore une fois, il n'y a rien de vraiment polémique dans votre travail. C'est vraiment une analyse de texte. Vous êtes un des rares, probablement, à avoir réussi à lire tous ces livres jusqu'au bout, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et les analyser par paragraphe, idée par idée, développement par développement.
Oui, oui, c'était effectivement, ma méthode, elle est simple. J'ai lu ces textes, j'ai fait un choix de textes, je les soumets au lecteur et j'en propose une analyse. Donc on peut comparer mon analyse avec le texte lui-même et décider de la pertinence ou pas. Ça revient au lecteur. C'est aussi une méthode de travail.
Oui, mais enfin, elle n'est pas couramment pratiquée. Parce qu'on s'empresse de prendre des positions, on s'empresse de prendre quelques extraits à toute vitesse, puis voilà, on s'en tient là.
Oui, bien sûr. Alors, finalement, vous avez dit tout à l'heure que le qualificatif d'antisémite, à force d'être utilisé, risquait d'être banalisé et que tout le monde risquait de pouvoir devenir antisémite. Je crois que non, précisément pas. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'usage que font ces idéologues, que j'ai analysé, du terme antisémite est extrêmement ciblé. Précisément, il est extrêmement ciblé. L'enjeu fondamental est le suivant, à mon sens. Jusqu'à très récemment, l'antisémitisme qualifiait un courant xénophobe, négationniste, un courant qui aussi s'inspirait d'un mot d'ordre qui était celui de la défense de l'Occident, qui dans les années 30, même au-delà, était un mot d'ordre d'une droite ou d'une extrême droite. Aujourd'hui, leur position est de dire qu'il faut repenser la notion d'antisémitisme. L'antisémitisme ne qualifie plus ce courant d'extrême droite, il va le qualifier d'autres personnes. Alors, évidemment, notamment la question de l'antisémitisme musulman, mais aussi, plus fondamentalement, je crois, de qualifier d'antisémite des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être porteurs de préjugés, des personnes qui tiennent un discours qu'on appellerait un discours intellectuel ou un discours critique. Et c'est ça la véritable nouveauté. Alors, prenons quatre exemples, à mon sens, tout à fait essentiels. Eyal Sivan, l'auteur du film « Route 181 », Alain Finkielkraut. On va bien sûr parler d'Alain Finkielkraut parce que c'est une figure importante de ce courant intellectuel que j'analyse. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus médiatique. Donc, forcément, ses propos sont intéressants. Et il a dit à propos du film de Sivan, il a dit « Eyal Sivan est l'un des acteurs de cette réalité particulièrement pénible, particulièrement effrayante, l'antisémitisme juif qui sévit aujourd'hui. » À propos du film « Route 181 », il y a eu aussi Edgar Morin, qui a été poursuivi en justice, et Bourdieu, dans le cadre d'une émission sur France Culture avec Alain Finkielkraut, Jean-Claude Milner nous a fait part d'une thèse qui était la sienne au sujet d'un
des
livre
héritiers.
Des héritiers de Bourdieu, qu'il a qualifié de livre antisémite. Alain Badiou, bien sûr, et également Daniel Mermet.
Oui, donc, c'est quand même et une c'est compagnie un peu impressionnante.
Oui, alors l'intérêt, c'est qu'on voit bien autour des figures de Bourdieu, de Sivan, de Badiou, de vous-même, que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'analyser des préjugés antisémites qui vont s'exprimer, il s'agit de pointer un discours critique et de le qualifier d'antisémite. Et je crois qu'un des enjeux essentiels, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui se joue ici. Alors, parlons du film d'Eyal Sivan, si vous voulez bien.
Route 181. Qui est un parcours le long d'une ligne en partie disparue, qui est la ligne verte.
Absolument, oui.
Avec Michel Kleffi, qui est un réalisateur palestinien. Donc Eyal Sivan, il faut le rappeler, est un réalisateur de films, un cinéaste israélien, et qui fait avec Michel Kleffi ce film, Route 181, qui retrouve la ligne verte. Et c'est un chemin faisant, tout ce qui peut leur arriver sur cette ligne verte.
Voilà, donc ils partent avec leur caméra à la rencontre des gens. C'est ça le motif du film. L'autre motif du film, évidemment, motif poétique, c'est que cette ligne verte, cette route 181, opère comme une sorte de cicatrice, de plaie béante, et que la seule manière de la guérir, c'est la réunification de la Palestine historique, et donc un État binational. Ça, c'est bien entendu ce qui va lui attirer les foudres, a priori, du moins, d'Alain Finkielkraut et d'autres, de Lanzmann, etc. L'autre reproche qui lui a été fait, c'est de détourner une scène très célèbre du grand film de Claude Lanzmann, Shoah, la scène du coiffeur, et où dans le film de Sivan et Kleffi, on voit un coiffeur palestinien parler de la Nakba,
de la catastrophe pour les
c'est-à-dire de quitter leur foyer, les villages, etc. Et donc, ils vont accuser Sivan d'être un antisémite juif, et d'autre part aussi parce que le motif de son film, en appelant en quelque sorte poétiquement à un État binational, serait une manière de disqualifier ou de délégitimer l'État d'Israël. Alors, parlons de ce film parce qu'il est essentiel de comprendre ce que signifie qu'on ait qualifié Sivan d'être un antisémite juif et d'appeler même quasiment au meurtre des Juifs. D'ailleurs, il a suite poursuivi en justice Alain Finkielkraut. Bon, ça, c'est les suites judiciaires de cette affaire. Ça ne nous intéresse pas essentiellement. Ce film est un film admirable. Pourquoi ? Parce que Sivan et Kleffi, on parlait de méthode, justement, de méthode dans l'analyse des textes, parlons de méthode dans le processus de création d'un film. Ils vont avec leur caméra et ils vont à la rencontre des gens et ils prennent le temps de les laisser parler, de les laisser chacun raconter leur histoire. C'est un film qui dure 4 heures. qui est à l'opposé des films commerciaux qui nous assènent une vision du monde, qui nous assènent des représentations. Non, il laisse ouverte justement ce qu'on va appeler dans le cadre de cette émission, à la suite de Lacan, j'y reviendrai, une possibilité critique. Or, il y a une scène de ce film tout à fait exceptionnelle. C'est la rencontre d'un Israélien. J'ai vu ce film il y a quelques années, donc je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est autour d'un musée et la conversation vient sur la guerre de 48. Et on évoque qu'à cet endroit se trouvait un village arabe qui depuis n'existe plus. Et l'Israélien répond, oui, mais si les Palestiniens avaient accepté le partage, roi Salomon, quelle est l'histoire du roi Salomon? Ce sont les deux mères qui se disputent un enfant en disant c'est mon enfant. Le roi Salomon dit bien, eh ben, nous allons partager. Et évidemment, l'une des mères accepte et l'autre, la mère de l'enfant, dit non, eh bien donnez-le lui. Et là, le roi Salomon comprend, évidemment, on comprend qui est la véritable mère de cet enfant. Donc c'est une manière de dire, si les Palestiniens ont refusé le partage, c'est parce que cette terre était précisément la leur. C'était non pas la mère de la terre, mais en quelque sorte les enfants de cette terre. Cette terre nourricière, cette Palestine, qu'il faudrait réunifier. Que lui répond l'Israélien? Il lui répond cette chose, mais une terre, ce n'est pas un enfant. Cette réponse est essentielle, parce que, bien entendu, elle déconstruit le motif poétique qui construit le film de Sivan Eklefi. Puisque, bien sûr, ce n'est pas une cicatrice dont la seule guérison possible est la réunification, parce qu'une terre, ce n'est pas un corps. On pourrait traduire et dire, la réponse de l'Israélien, c'est la Palestine historique, ce n'est pas le corps du Christ. Et je voudrais ici rendre hommage, vraiment, au film de Sivan et de Eklefi, parce que leur grandeur, c'est qu'ils n'ont pas coupé ça au montage. Ils l'ont laissé. Parce qu'ils ont respecté quelque chose d'essentiel, qui est le processus de création d'une œuvre cinématographique. Et c'est ça leur grandeur. Et de là, on comprend que le message profond de ce film n'est pas du tout un message idéologique. C'est ce que Paul Celan, le poète Paul Celan, appelait l'éthique de la poignée de main. Et que c'est finalement cette éthique de la poignée de main, cette conception du cinéma qu'on a qualifiée d'antisémitisme. C'est cette conception du cinéma dont on a voulu nous faire croire qu'elle conduirait les jeunes des banlieues ou elle conduirait les gens à avoir des préjugés antisémites. C'est cette conception du cinéma dont on nous a dit qu'il fallait, alors qu'il y avait deux diffusions prévues dans un festival au Centre Pompidou, qu'il fallait les interdire.
Походкой по берлинскому Исайду. В кармане сети, на нем песен мегабайт. Все одна к одной, водка, хитс нон-стоп. Эмигрантский рагамаффин, цыганский хип-хоп. И бомба сезона, берлинский клезмертон. Для всех, кто слышал звон, знает, где он. Наш саунд-систем, диджеи-террористы. Взрываем танцпол, быстро и чисто. Брандвайн, Микки Катс, Дэйв Тарас расшевелят любую публику на раз. А мы добавим бит и выкрутим бас. Так чтоб Орион и Марс услышали весь этот джаз. Я узнал этот саунд со старых кассет. Их оставил мне мой дед, им 100 лет в обед. Долой электрогитару, да здравствует кларнет. Клезмер из Дэд, а я еще нет.
Le 11 septembre 2001 a été une aubaine, on le sait maintenant, pour les néocons, ce qu'on appelle les néocons aux États-Unis. La lutte contre le terrorisme a engendré toutes sortes de dérives dont on n'a pas fini de prendre tout à fait la mesure. Dérives au nom de la défense de la démocratie contre le terrorisme et le totalitarisme. L'islamisme ayant remplacer le communisme d'hier. En France, selon notre invité Yvan Segré, est également apparu un discours réactionnaire qui, sous un certain habillage, a renoué avec la défense de l'Occident au sens traditionnel réactionnaire de ce terme. Et l'habillage, eh bien, c'est la défense du sionisme, la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Voilà en gros ce qui parcourt son livre, La réaction philosémite ou la trahison des clercs. Yvan Segré, je vous le rappelle, vit en Israël. Il se consacre à l'étude du Talmud et il se présente lui-même comme sioniste, dans le sens où il a choisi de vivre en Israël. Un regard original et puissant de ce docteur en philosophie. Alors, Yvan Segré, je reviens à votre livre. À travers l'analyse des textes de tous ces auteurs et à la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est-à-dire que derrière le résultat de leur travail, c'est une défense de l'Occident, au sens des valeurs occidentales, par opposition à d'autres civilisations. Il y a l'idée presque de guerre de civilisation derrière ça.
Bah, sur le cas présent, c'est d'abord la défense d'un cinéma commercial, la détestation d'un cinéma qui donne la parole aux gens, comme votre émission donne la parole aux gens. La détestation d'un processus de création qui est porteur d'une telle éthique. La détestation qu'un cinéaste israélien et un cinéaste palestinien puissent ensemble faire un film comme celui-là. Et je crois que pour bien comprendre l'enjeu, il faut faire une comparaison. Comparaison avec d'autres œuvres. Et par exemple, le livre, je me suis intéressé, j'en parle, le livre « New York brûle-t-il » de Dominique Lapierre et Larry Collins, édité chez Robert Laffont. Alors, leurs œuvres, ce sont des best-sellers, ils sont traduits dans le monde entier, ils sont vendus à des millions d'exemplaires, ils ont bénéficié d'une promotion extraordinaire, pesante, imposante. Et dans ce livre, eh bien, la trame de cet ouvrage est la suivante. Des terroristes islamistes parviennent à se procurer une bombe nucléaire qu'ils cachent dans New York et ils exigent le retrait des colonies israéliennes, des implantations israéliennes en Cisjordanie et à Gaza. Or, il est aussi important de rappeler que dans la quatrième de couverture, on nous explique 2 ans d'enquête, une quantité impressionnante de documents examinés, dont beaucoup ultra confidentiels, plus de 300 personnes interrogées aux États-Unis, en Israël, en Grande-Bretagne, en Inde, dans les centres les plus secrets de la guerre contre le terrorisme. Donc, l'effet de réel est inscrit. Les personnages sont des personnages non pas fictifs, mais réels. C'est George Bush, c'est Dick Cheney, c'est Ariel Sharon, etc. Or, ces terroristes demandent l'évacuation des implantations en Cisjordanie, sous peine de faire exploser la bombe, de détruire New York. Sharon refuse et propose tout simplement de dire « Eh bien, écoutez, ce qu'on peut faire par contre, c'est pour vous venger, on va aller détruire le Pakistan à l'aide de l'arme nucléaire. » Alors, les Américains refusent parce qu'ils ont une conception de l'existence tout à fait autre que celle des Israéliens. Ils respectent la vie humaine et ils refusent de faire payer à des innocents le prix de la méchanceté des terroristes. Donc, ils vont finalement retrouver la bombe par eux-mêmes, prendre ce risque-là. Et la conception, on voit bien, la position de Sharon, la position de l'Israélien dans cette affaire, elle est très claire. C'est lui la cause du mal. C'est lui la cause du terrorisme, puisque les terroristes n'ont aucun reproche à faire à la politique américaine. Le seul reproche, c'est les colonies. Les terroristes islamistes ne demandent rien d'autre que la restitution des colonies. Et Sharon s'y oppose absolument farouchement et il est prêt à faire sauter la planète, finalement, plutôt que de rendre quelques hectares. Or, il est intéressant que c'est un livre qui sort en 2004 et qu'en octobre 2004, il y a dans le journal Le Monde un petit encadré. « Monsieur Pérez craint pour la vie de Monsieur Sharon parce que suite à la décision du retrait de Gaza, il était menacé de mort par des courants extrémistes. » On comprend bien que cet ouvrage-là est porteur de préjugés anti-juifs très évidents pour quiconque connaît un peu la littérature et comment a fonctionné le préjugé anti-juif dans la littérature occidentale. C'est-à-dire que l'Israélien, celui qui est le juif, Sharon c'est la figure du juif, c'est un allié fourbe qui est prêt à vous lâcher et qui n'a aucun respect de la vie humaine. Or, évidemment, ce n'est pas du tout sous forme d'un discours critique. C'est une production commerciale qui va inonder les librairies, les écrans sous la forme d'une promotion et qui présente une image d'Israël extrêmement négative et de manière extrêmement virulente en réalité sous l'aspect d'un ouvrage de suspense. Et ce qu'on a entendu ces personnes qui ont accusé Sivan d'être un antisémite, est-ce qu'on les a entendues émettre la moindre critique?
Non, mais est-ce qu'ils n'ont pas du tout lu ce livre comme vous l'avez lu?
Écoutez, je ne vois pas comment des gens qui prétendent... Alain Finkielkraut vient d'écrire un livre sur, en tant que lecteur. Ses personnalités, Éric Marty, qui lit Badiou, qui découvre l'antisémitisme dans Badiou, qui le découvre dans les films d'Eyal Sivan, et qui nous explique que leur souci fondamental, c'est de défendre Israël et de lutter contre les préjugés anti-juifs. Alors je m'étonne, parce que moi, ça a été mon souci quand j'ai fait cet ouvrage. Ça a été de m'intéresser à cette question-là, la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui et la défense d'Israël. Or, je compare leur méthode à la mienne. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus dangereux en termes de préjugés, de la manière de sournoisement introduire des préjugés anti-juifs ou anti-israéliens dans la conscience occidentale? Est-ce que c'est le film de Sivan ou est-ce que c'est cet ouvrage?
Alors, Yvan Segret, qu'est-ce qui les fait courir, ces gens-là? Comment, on a dit, ce sont des intellectuels communautaires. Est-ce qu'ils représentent la communauté juive française?
Absolument pas, selon moi. Si on donne un sens au mot communautaire, un sens authentique, absolument pas. Ce sont des idéologues qui ont une certaine conception de la lutte contre l'antisémitisme, qui demandent à être analysés, et pour l'essentiel, leur position va être d'instrumentaliser le terme d'antisémitisme pour disqualifier une pensée critique. Or, cela va se faire au détriment d'une véritable lutte contre les préjugés antisémites, qui existent véritablement.
Quel est leur but en attaquant en discréditant cette pensée critique? Quel but poursuivent-ils?
Prenons un exemple. À mon sens, l'attaque d'Alexandre Adler dans Le Figaro contre Badiou. Adler évoque un libelle, dans un libelle récent, Badiou parlait de l'inexistence du peuple juif, ce qui est absolument faux, bon, on y reviendra, etc. Et en parlant de son antisémitisme presque invisible, insinueux, etc. Ce libelle récent, circonstance 3 portée du mot juif, date de 2005. C'est pas tout à fait récent. En revanche, il y a eu depuis circonstance 4 et circonstance 5. Circonstance 4, de quoi Sarkozy est-il le nom? L'analyse que propose Badiou de la victoire de Nicolas Sarkozy et, à travers lui, finalement, d'une certaine droite. Circonstance 5, l'hypothèse communiste, qui est la manière dont Badiou pense la pérennité, la nécessité, plus que jamais, de l'hypothèse communiste. Vous voyez bien que ce que vise Alexandre Adler, quand il parle de libelle récent, c'est circonstance 4 et circonstance 5. Simplement, pour s'opposer à la pensée philosophique de Badiou, quoi de mieux que de manipuler le terme antisémite en parlant d'un antisémitisme presque invisible, ce qui nous conduit finalement à dire pas de débat critique, pas d'argumentation, l'affaire est réglée.
C'est ça, c'est une arme, un chantage permanent, accusation ou soupçon d'antisémitisme, ce qui est très lourd et ce qui vise à discréditer n'importe qui, n'importe quand.
Pas n'importe qui. Et pas n'importe quand, précisément. Après que Badiou ait écrit circonstance 4 et circonstance 5, et précisément Alain Badiou. Encore une fois, l'essentiel est là. À travers la lutte contre l'antisémitisme, ces intellectuels ne nous proposent pas d'analyser la manière dont les préjugés anti-juifs ou anti-israéliens, et parfois, effectivement, c'est clairement la même chose, fonctionnent dans des œuvres culturelles, intellectuelles, cinématographiques ou autres. Non, ce n'est pas ça leur propos. Leur propos, c'est de disqualifier une certaine pensée critique, une certaine possibilité critique.
Mais quand Sharon venait dire le pays le plus antisémite au monde, c'est la France, etc., au point que le président Chirac avait été obligé de faire des déclarations furieuses contre ça, là, c'est bien quand même une utilisation du chantage à l'antisémitisme, du soupçon d'accusation d'antisémitisme à des fins politiques.
Absolument pas, en réalité. Le propos de Sharon était évidemment... scandaleux de stigmatiser ainsi la communauté musulmane, mais ce n'est pas lui l'auteur. Qu'est-ce qu'il fait, Sharon? Sharon, son intérêt, c'est de susciter une alia en Israël. Il y a en France un discours qui stigmatise les Maghrébins. Alors Sharon s'inscrit dans ce discours-là. Mais il y aurait un autre discours, il serait inscrit dans un autre discours. Si en France, il y avait un discours autre, et par exemple, s'il y avait une véritable défense du sionisme qui soit pensée et qui soit affirmative, alors Sharon n'utiliserait pas ce discours. D'autant plus qu'il est absolument absurde, parce que dire à des gens qui vivent en France, des juifs, et il y a trop d'arabes en France, venez en Israël, c'est une sacrée blague. Parce que je peux vous dire qu'en Israël, vous êtes beaucoup plus entouré par le monde arabo-musulman que si vous vivez en France.
Ah oui.
Et que la situation là-bas, elle est, quelles que soient les positions de chacun, mais elle est autrement plus extrême, autrement plus radicale, autrement plus sérieuse que les fantasmes qu'on nous assène ici en France concernant les émeutes, les cités, etc.
Yankel kvit de Westside Daisy, eh? Ben Crosstown and joined YMCA. Soon Bacon and Pork, he began to enjoy. Took off his yarmulke, Yid was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of Adas go,
boy, 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 boy,
boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bendis long hairs, got a Mexican name. I said, hey, Hirsch, take a walk on the kosher side. I said, hey, kid, take a walk down Fairfax. Yeah, start there. Yeah, get me a forward there, will you? Go in the corner there. Get me a Danish here. I'm sick. I can't walk up there by myself. Give me a cup of coffee. Will Katz was taking his bar mitzvah lesson. Cross the street, a shiksa was undressing. And one day, to the rabbi's surprise, Katz was shown the way he was circumcised. I said, hey, Katzie, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of it have to go. A girl, a thing like that, boy. You know what's gonna happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot. Let me out of here, Eddie. I gotta go get a sandwich or something. I can't take this anymore.
On continue avec Yvan Segré qui publie La réaction philosémite ou La trahison des clercs, Schilling, avec cette analyse qui vise à. Par une analyse extrêmement précise, fouillée, encore une fois, il faut y insister, des textes produits par tous ces intellectuels qui se positionnent en défense d'Israël, d'une certaine forme, de différentes formes d'ailleurs de sionisme, et une lutte contre l'antisémitisme. Et c'est par l'analyse des textes, parce qu'effectivement, il y a pas mal de livres qui ont été produits dans les 10 dernières années, mais c'est vrai qu'on ne les a pas toujours lus jusqu'au bout et analysés avec la même acuité. Alors, vous consacrez de nombreuses pages à Pierre-André Taguieff, qui est celui qui a le plus œuvré dans cette lutte pour dénoncer un nouvel antisémitisme, une nouvelle judéophobie, et qui a vraiment travaillé beaucoup, lui, dans ce sens-là. Et puis vous finissez ensuite votre parcours à travers ces auteurs avec la lecture de trois ouvrages de la journaliste italienne Oriana Fallaci. Je voudrais bien que vous parliez un petit peu de vos analyses du travail de Pierre-André Taguieff.
Bien, je crois...
Même si, en fait, tous ces auteurs se suivent dans votre analyse.
Alors, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Je crois que la cohérence... L'intérêt des textes de Taguieff dans ce courant idéologique, il reprend des points fondamentaux. Le premier, c'est d'identifier l'antisémitisme avec l'anti-américanisme. C'est la correction qu'il apporte à la thèse d'Annie Kriegel. Je cite Taguieff. Annie Kriegel posait que l'antisionisme est au communisme ce que l'antisémitisme fut au nazisme. Mmh. La formule doit être aujourd'hui revue et corrigée. L'antisionisme criminalisant et l'anti-américanisme diabolisant sont au néo-communisme et au néo-gauchisme ce que l'antisémitisme rédempteur fut au nazisme. Mmh. Il y a un enthousiasme rhétorique propre à Pierre-André Taguieff. Outre cela, l'essentiel, sa correction, c'est de dire l'antisémitisme, ça ne concerne pas que les Juifs ou Israël, ça concerne aussi l'Amérique. Dans la suite de son propos, il expliquera une thèse aussi chère à ses intellectuels, que la francophobie et la judéophobie signent une pétition appelant à lutter contre le racisme anti-blanc. Donc là, on a un peu le sentiment que les choses sont dites très clairement. Mais Pierre-André Taguieff est également intéressant parce que, à travers ses textes, il y a une critique aussi d'un certain nombre d'auteurs dans les sciences humaines, de sociologues, d'ethnologues, qui renvoient, encore une fois, à une tradition sociologique et ethnologique française, celle de Bourdieu, de Lévi-Strauss, qui remonte aussi à Montaigne, finalement. Que disait Montaigne ? Montaigne disait « Chacun nomme barbarie ce qui n'est pas de son usage. » Lévi-Strauss a fait un pas de plus, et il a dit « Barbare, celui qui croit en la barbarie. » Alors, il est évident que si on veut installer un discours qui consiste à dire que le voile islamique est le signe d'une barbarie, que la toute différence d'ordre ethnologique relève très rapidement d'une forme de barbarie, alors évidemment que ces auteurs-là sont à bannir et qu'il faut les disqualifier. Et il ne faut pas oublier, à mon sens aussi, un point tout à fait essentiel, c'est que l'apport principal de ces intellectuels dans le débat public se sera concrétisé par une loi qui interdira donc le voile islamique et la kippa juive, en termes de vêtements, dans les écoles. Or, je ne pense pas, très sincèrement, que cette interdiction-là ait quelque rapport que ce soit avec la lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais vous faire part d'une anecdote. Un ami à moi, qui porte la kippa, quelques mois après l'entrée en vigueur de cette loi, se rend dans un commissariat de police pour déclarer la perte de ses papiers d'identité. Le fonctionnaire de police, pour entrer en matière, lui dit « Enlevez-moi ce machin que vous avez sur la tête. On est en République ici. » Camarade étonné lui dit « Mais enfin, justement, on est sur une république, on n'est pas sous Vichy. » Il dit « Non, regarde, maintenant les choses sont différentes, vous enlevez votre machin. » Il obéit, il obtempère, il enlève sa kippa, il fait sa déclaration. Le fonctionnaire ne lui a pas demandé s'il avait ses papiers, vous connaissez l'histoire de Coluche, bref. Suite à cela, il en a parlé autour de lui et des responsables communautaires sont au commissariat et les choses ont été rétablies. Ils ont expliqué à ce fonctionnaire qu'il avait fait un excès de zèle, que c'était dans le cadre simplement des écoles, qu'il y avait une interdiction, mais pas en dehors et pas dans un commissariat. Mais cette conclusion qu'a tirée de lui-même ce fonctionnaire de police n'est pas inintéressante.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « L'école, c'est un lieu où on transmet les valeurs de la République, mais la police aussi. » Bien la sûr. Police a pour mission de défendre et de transmettre les valeurs de la République. Donc si la kippa juive est contraire à ces valeurs-là, eh bien, elle n'a pas sa place non plus dans un commissariat de police. On lui a dit non, non, ce n'est pas les conséquences qu'il faut en tirer. Quelles sont les conséquences qu'il faut donc en tirer ? Je l'ignore. Mais en tout cas, je doute fortement que cette loi ait à voir, de près ou de loin, avec la lutte contre l'antisémitisme et encore moins avec la défense d'Israël.
On arrive vraiment tout à fait au terme, là, Yvan, de cette rencontre. Mais je voudrais quand même, en quelques mots, que vous évoquiez les livres d'Oriana Fallaci. Parce que vous avez mis le doigt sur des choses extraordinaires qui sont dans ces textes délirants de cette journaliste italienne. Livres qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès en Italie et en France aussi. Et qui ont été défendus par certains de ceux que vous avez cités, dont Alain Finkielkraut et Pierre-André Taguieff, qui se sont montrés très bienveillants vis-à-vis de ces textes.
Oui, c'est un peu... On boucle la boucle, si je puis dire. C'est, quand on s'en prend à la possibilité critique, évidemment, eh bien, c'est une manière de légitimer un discours qui va être construit sur des préjugés. Ariana Fallaci a écrit un discours... complètement réactif, dans des conditions biographiques pour elle difficiles. En tout cas, toujours est-il que son propos est clairement d'étaler ses préjugés xénophobes contre ce qu'elle appelle les fils d'Allah, c'est-à-dire les musulmans qui ont pour tort d'être étrangers à la culture d'Ariana Fallaci, à sa représentation de la culture. Que Pierre-André Taguieff, Alain Finkielkraut et d'autres aient soutenu le propos d'Ariana Fallaci n'est pas étonnant, puisque ça correspond bien finalement au mouvement d'ensemble. Alors, l'idée principale d'Oriana Fallaci, on peut la résumer en citant un passage du second ouvrage, La force de la raison, qu'elle a écrit à la suite de La rage et l'orgueil, dans lequel elle critique le vice-président du conseil italien, et elle lui écrit ceci, elle lui dit « Vous allez à Jérusalem, vous pleurez des larmes de crocodile devant Yad Vashem, la kippa sur la tête, puis vous forniquez de la façon la plus effarante avec le fils d'Allah. » Qu'est-ce que forniquer de la façon la plus effarante avec le fils d'Allah, de telle sorte que les larmes versées à Yad Vashem soient des larmes de crocodile ? Est-ce soutenir le négationnisme qui se propage, qui existe dans les universités du monde arabo-musulman ? Non. Est-ce que c'est soutenir l'Iran dans l'obtention d'une arme nucléaire, alors que c'est un pays dont le président a dit que rayer Israël de la carte faisait partie de son projet ? Non. Non, la fornication dont il est question est la suivante. Vous voulez leur accorder le droit de vote, vous déclarez qu'ils le méritent parce qu'ils payent des impôts et ont la volonté de s'intégrer ou sont en train de s'intégrer. Donc voilà, la lutte contre l'antisémitisme s'exprime dans les textes de Falachi. C'est quoi ? Eh bien, c'est pour l'essentiel qualifié d'antisémite celui qui pense que les étrangers qui travaillent, qui vivent en Italie, en France, le droit, ils doivent, effectivement, on doit leur accorder le droit de participer à la vie politique. Voilà, voilà ce qu'est être un antisémite, selon Ariana Falachi. C'est d'avoir cette conception-là. Alors, évidemment, c'est une conception clairement d'extrême droite, et c'est une conception d'extrême droite qui, chez Oriana Fallaci, va s'exprimer ensuite d'une manière tout à fait symptomatique, puisqu'elle va parler des poursuites judiciaires qui ont été intentées contre elle en Suisse, et elle va citer d'autres victimes de ce qu'elle appelle l'Inquisition, c'est-à-dire c'est la justice helvétique. Le défenseur des animaux suisse Erwin Kessler, qui, comme Brigitte Bardot, ne supporte pas l'abattage halal et qui, pour l'avoir critiqué, se fit flanquer 2 mois de prison ferme. Un autre exemple, l'historien suisse Gaston Amodruz, octogénaire, qui publiait un petit mensuel révisionniste, « Revoir l'histoire, c'est-à-dire la raconter d'une façon différente de la version officielle, est interdit de nos jours, vive la liberté », et qui fut condamné à cause de cela, le 10 avril 2000, par le tribunal de Lausanne, à 1 an de prison et à une lourde amende. Donc, Ariana Falachi nous dit que le révisionnisme de Forisson et d'Amodruz, qui est donc la négation des chambres à gaz homicides, c'est la liberté de revoir l'histoire, c'est-à-dire de contester la version officielle de l'histoire. Parce que, à terme, bien entendu, laisser libre cours aux préjugés, anéantir la possibilité critique, à terme, on retrouve l'extrême droite classique, dont on nous dit que ce n'est plus elle qui est porteuse d'un antisémitisme. On la retrouve, bien entendu, on la retrouve avec ses traits symptomatiques, la haine des immigrés, la haine des étrangers et, évidemment, le négationnisme. Pourquoi ? Parce que tout cela va ensemble, va de pair, et finalement, comment articuler la figure de l'étranger à cette question que nous avons évoquée, qui est celle de la possibilité critique ? Terminons là-dessus, peut-être. L'acte fondateur de la philosophie, ce sont les dialogues de Socrate, écrits par Platon. La figure de Socrate qui va être condamnée par la démocratie athénienne pour avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire pour avoir introduit cette possibilité critique, celle finalement du rationalisme, de l'exigence de rigueur, de méthode, qui est celle d'un rationalisme. Le dernier dialogue de Platon, qui s'intitule « Le sophiste », substitue à Socrate, Socrate n'intervient plus, qui est l'intervenant qui a la position de Socrate, Platon l'appelle l'étranger. Voilà. C'est en ce sens, je crois, fondamentalement, qu'il importe de réfléchir à la manière dont ces intellectuels s'en sont pris à des gens comme Eyal Sivan, à des gens comme Bourdieu ou Morin, à des gens comme Alain Badiou. Et dans la mesure où ces personnes-là exercent cette possibilité critique, et aussi pourquoi ces gens-là s'en sont pris à vous, Daniel Mermet, parce que je crois que nous avons ensemble exercé cette possibilité critique envers un courant idéologique et envers des préjugés.
C'était un entretien avec Yvan Segré, première diffusion le 2 septembre 2009. Son livre « La réaction philosémite » ou « La trahison des clercs » a été publié par les éditions Ligne en mai 2009. À la technique aujourd'hui, il y avait Cédric Lalanne et Basile Bocquer, à la réalisation Coy Nguyen et Franck Aderer, assistante Agnès Le Bot, chef du répondeur Marina Touyez. Le numéro du répondeur de la Bassie J'y suis est le 01 56 40 37 37.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste ?
Le temps d'attente de moins de 5 minutes dans les bureaux de poste.
5 minutes ?
Ben oui, c'est comme les dinosaures.
Les dinosaures.
À la préhistoire, tu pouvais pas sortir de ta grotte sans te faire bouffer par un dinosaure. Et puis là, boah, une météorite, boum, 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 et en 5 minutes, plier les dinosaures.
5 minutes, c'est top, hein.
Triceratop.
La Poste modernise ses bureaux pour réduire le temps d'attente. Pour déposer ou retirer lettres et colis, il est désormais de 5 minutes en moyenne.
Et c'est pas tout.
La Poste, la confiance donne de l'avance.
Novembre 2010, Stéphane et Chloé se font plaisir avant les fêtes.
On récapitule. Un week-end raclette en Savoie, un saut au marché de Noël de Lille, une semaine chez ma mère, le repas...
Oh, du calme, c'est bon, ça en fait des billets, là. On a aussi les cadeaux à offrir.
Allons Stéphane, rassurez-vous.
Du 23 novembre au 13 décembre, profitez d'1 million de billets TGV à petit prix pour des voyages du 26 novembre au 16 décembre. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Lunéa et Intercité.
Super, bah alors on va passer chez ma mère aussi.
Oui, on verra.
SNCF.
Allô, la Française des Jeux? Oui, c'est Ariel Dombal. Je vous ai appelé hier et avant-hier, oui, peut-être aussi. Voilà, j'ai joué à Joker Plus avec l'option plus ou moins 1 et je voudrais être sûre d'avoir gagné même à un numéro près. Bon, un seul petit numéro, en plus c'est celui d'à côté. Vous me confirmez? Ah, vous êtes adorable! Bon, on se rappelle!
Avec la nouvelle option plus ou moins 1, quand vous avez perdu à un numéro près, vous avez gagné Joker Plus. Mettez encore plus de chance de votre côté.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Votez pour la personnalité culturelle de l'année 2010. Rendez-vous du 15 au 28 novembre sur franceinter.com et choisissez parmi les 8 nominés qui sera la personnalité culturelle de l'année 2010. Remise du prix au lauréat le 7 décembre à la maison de Radio France.
La personnalité culturelle de l'année avec Cultura. 48 magasins et cultura.com. Livres, disques, vidéos, multimédia, loisirs créatifs, beaux-arts.
Bon après-midi, juste après le flash, vous retrouverez Frédéric Lodéon sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
Plutôt en verve, citant Charles Péguy et taclant l'opposition taxée de démagogie, François Fillon a prononcé devant les députés le deuxième discours de politique générale de sa carrière. Vantant les vertus de la rigueur budgétaire, le Premier ministre a toutefois promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts et appelé à poursuivre les réformes indispensables au pays. On l'écoute.
Rompre avec le mouvement, il ne peut pas en être question. Parce que notre indécision serait une revanche de la peur. Cette peur du changement qui nous a longtemps conduit à célébrer la théorie du nini et à louer celle du temps laissé au temps. Alors oui, contre vents et marées, dans le calme et la tempête, contre les conservatismes et pour vaincre les peurs, l'élan de la réforme est intact. Parce que l'économie mondiale doit être mieux régulée, parce que notre économie doit être plus compétitive, parce que l'emploi doit être soutenu, parce que nos déficits doivent être réduits, parce que nous avons le devoir d'assurer le bien-être de nos aînés en finançant le coût de la dépendance, je vous le dis, nous allons continuer à réformer.
Et dans le détail, François Fillon a annoncé notamment le lancement d'une concertation nationale sur la protection sociale pour préparer la réforme du financement de la dépendance des personnes âgées. Dominique de Villepin sera demain dans le bureau du juge Van Ruynbeck. L'ancien Premier ministre et secrétaire général de l'Élysée de Jacques Chirac va être entendu comme témoin dans le volet financier de l'enquête sur l'attentat de Karachi. Vendredi dernier, Dominique de Villepin avait confié ses très forts soupçons sur l'existence de rétrocommissions illégales en marge des contrats de vente de sous-marins au Pakistan, sans en avoir pour autant la preuve formelle. Pour faire face à la vague de grand froid qui arrive sur la France, Paris ouvre ce soir un gymnase pour accueillir les sans-abri d'une capacité de 60 places dans le 7e arrondissement de la capitale. Un deuxième gymnase ouvrira demain soir. Des objectifs exigeants mais réalistes, l'Irlande dévoile les détails d'un plan de rigueur de 15 milliards d'euros d'ici 2014. C'est la condition posée par l'Union européenne et le FMI pour apporter son aide à l'Irlande. Le montant du plan de sauvegarde devrait atteindre 85 milliards d'euros. Le liquidateur de l'affaire Madoff réclame 2 milliards de dollars à la banque suisse UBS. Irving Picard cherche à récupérer les fonds perdus par les victimes de cette gigantesque escroquerie. Selon lui, Bernard Madoff n'a pas agi seul. Au Cambodge, on commence à comprendre l'enchaînement qui a entraîné la mort de 456 personnes lundi soir sur un pont à Phnom Penh. La panique s'est emparée de la foule à cause de rumeurs selon lesquelles le pont allait s'effondrer. C'est ce qu'indique la commission d'enquête sur l'accident. Des témoins mettent également en cause la lenteur l'effort des secours et la mauvaise organisation de la fête de l'eau, un autre pont était fermé malgré l'affluence. Bientôt, deux nouveaux chefs-d'œuvre au musée des Beaux-Arts de Rouen. La ville va acheter un Pissarro et un Corot qui représentent Rouen et Coulommiers, et ce grâce au succès d'une exposition organisée l'été dernier à Rouen autour de l'impressionnisme qui a attiré près de 240 000 visiteurs et rapporté 1 million d'euros de plus que prévu.
Demain, dans Service Public.
Que vont acheter les Français pour Noël? En partenariat avec 60 millions de consommateurs, Service Public vous aide à faire votre choix. Comment s'y retrouver en effet dans tous ces produits high-tech? Appareils photo, téléphone portable, télévision. Posez vos questions et intervenez, n'hésitez pas, sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent du 30 novembre au 22 décembre Baal de Bertolt Brecht, mise en scène par François Orsoni avec Clotilde M dans le rôle-titre. Sauvage et débridé, Baal raconte la vie d'un poète jouisseur qui s'adonne sans scrupule à tous les excès. Retrouvez Baal dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous. Les instruments à vent se sont développés au cours des temps et ils ont conquis une place de plus en plus importante. Ils se sont multipliés, il faut dire aussi, on en a inventé de nouveaux au 19e siècle notamment, voire au 20e. Et un disque vient d'arriver, ça s'appelle Banda Française. Le Banda, c'est un orchestre des rues en principe, mais là pas du tout. C'est un orchestre très sérieux, c'est celui de Stuttgart, orchestre d'État même. Mais on va entendre l'harmonie, c'est-à-dire les instruments à vent avec les clarinettes, les bassons, les flûtes, le saxophone, les cors, les trompettes, les cornets, les bugles, trombones, etc., etc. Le chef, c'est Marc Soustrot, qui dirige des orchestres généralistes, je dirais, en général, justement, et il est souvent en Allemagne. Il a été très très longtemps un des grands maîtres de l'Orchestre National des Pays de la Loire, et puis aussi à Bonn, dans la ville de naissance de Beethoven. Enfin, il fait une très belle carrière à l'étranger, on est très fiers de lui. Et là, il a voulu se consacrer uniquement au soufflant, comme on dit en Suisse, ou quelquefois en Belgique aussi. Voici un arrangement par un certain Fritz Weingärtner de la marche du couronnement du prophète de Giacomo Meyerbeer. We'll be right back. Marche du couronnement tirée du prophète de Giacomo Meyerbeer, interprétée par une harmonie, un ensemble d'instruments à vent, de l'orchestre d'État de Stuttgart, dirigé par Marc Soustrot. Donc un enregistrement de musique française, et beaucoup, sauf Meyerbeer, qui n'est pas d'origine française, mais qui a fait une très grande carrière chez nous, bien sûr, proposé par Animato. Et voici maintenant un disque de danse hongroise de Brahms, avec un duo de pianistes turcs, et nous donne la même chose que beaucoup d'autres, mais avec une personnalité très très frappante, très marquée. D'ailleurs, François-René Duchâble, notre cher grand pianiste, a dit que ce duo était vraiment du